Oui, bonjour. Vous écoutez Psycho Balado en ce vendredi 7 avril 2023 avec Yves Dalpé, psychologue. Alors, j'avais donc continué ce que j'avais entrepris voilà 2 semaines concernant le thème de l'infidélité sous l'angle des désirs extra-conjugaux et on va voir que il y a un lien entre le bon fonctionnement d'une personne, on pourrait dire, et puis sa tentation de céder à ses désirs d'infidélité. Alors donc, j'y vais tout de suite. J'entame la poursuite du texte qui est tiré du livre qui s'intitule « La gentillesse dans le couple » qui a été coécrit avec ma conjointe, la psychologue Joanne Côté. Alors j'y vais tout de suite. Voici. Bien que nous n'ayons jamais vu de statistiques corrélatives entre les relations extra-conjugales et les différentes personnalités pathologiques, il nous apparaît, à Joanne Côté et moi, Yves Dalpé, il nous apparaît logique de penser qu'un tel lien existe. Il est normal, en effet, nous semble-t-il, que les personnes affublées d'un mauvais caractère se retrouvent assez insatisfaites de leur relation conjugale pour menacer le lien de confiance de leur relation amoureuse par des infidélités. Nous n'en concluons pas que la majorité des relations extra-conjugales sont le fruit de dysfonctions de la personnalité, ce serait exagéré, bien sûr. Mais, d'après nous, nombre de tromperies conjugales s'expliquent par les personnalités troublées d'individus qui engendrent des relations de couple dysfonctionnelles. Cette perspective risque de déplaire au lecteur qui a été infidèle et qui pourrait se sentir accablé d'une étiquette pathologique. Nous le comprenons. N'oublions pas cependant que plus la vie a été difficile sur le plan affectif pour quelqu'un, plus il a dû travailler fort pour survivre. Les différentes manifestations psychopathologiques sont souvent le fruit de cette adaptation. Et souvent, ce qui paraît mésadapté aujourd'hui était adapté antérieurement dans des environnements défavorables. Nous avons donc du respect et de la compassion pour les personnes affublées de psychopathologie. N'oublions pas aussi que même si on évalue à environ 10% seulement le pourcentage des personnes atteintes de personnalités dysfonctionnelles, selon Stone en 1993, tout le monde est plus ou moins touché par les grandes erreurs inhérentes à chacune de ces diverses personnalités pathologiques. C'est une question de degré. La sévérité du mauvais fonctionnement de chaque type de personnalité s'étend sur un continuum qui va d'un style de personnalité relativement normal jusqu'au pôle opposé, celui d'une personnalité franchement pathologique. On se retrouve donc tous, plus ou moins, dans l'une de ces personnalités dysfonctionnelles du DSM. C'est pourquoi la plupart d'entre nous peuvent tirer des leçons sur les grands pièges de la vie affective et relationnelle dans lesquels tombent les personnes affectées d'un trouble de la personnalité plus ou moins sévère. À partir de notre expérience clinique, nous faisons des liens entre chaque trouble de personnalité et l'infidélité. Allons-y dans ce sens. Chez le narcissique, qui est imbu de lui-même, la probabilité d'infidélité est accentuée par rapport à la moyenne des gens. Monsieur ou Madame s'autorise des libertés. Ainsi, Mathieu, qui est à l'affût d'admiratrices, il les cueille volontiers, surtout si elle rehausse son statut social. Des femmes plus jeunes, plus belle, plus scolarisée, plus renommée viennent gonfler son ego. Par ailleurs, il peut être exigeant et contrôlant envers sa maîtresse, lui interdisant par exemple de faire l'amour avec son mari. Et non seulement éprouve-t-il peu de culpabilité dans ses écarts de conduite, mais en plus, il démontre peu d'empathie pour sa conjointe trompée quand elle découvre le pot aux roses. Chez le dépendant maintenant, qui cherche tant à plaire, l'infidélité est moins probable et la culpabilité est grande quand il ose s'aventurer de ce côté. Mais Jeanne le fera par dépit, parce qu'elle manque d'affirmation avec son conjoint et qu'elle a accumulé beaucoup d'amertume au fil du temps. Son escapade lui permettra d'ailleurs de vérifier son pouvoir dans la vie. Prise sur le fait, elle sera facilement repentante et collaboratrice dans l'amélioration de sa relation conjugale. Par contre, si elle a osé prendre autant de liberté, c'est parce qu'elle était vraiment insatisfaite de sa vie maritale, et alors, son infidélité pourrait être fatale pour sa vie de couple si elle est devenue en rébellion comme une adolescente. Quant au timide évitant, le confort du connu dans sa relation amoureuse lui fait voir l'infidélité de toute personne comme un scandale. S'il vit de l'infidélité, ce sera parce qu'il est vraiment frustré dans sa relation conjugale, comme les dépendants, et il s'en sentira très coupable lui aussi. Claude a fini par consacrer beaucoup de temps au cybersexe parce que cette activité est réalisée en catimini, sans réel contact interpersonnel, lui paraissait moins menaçante. Ensuite, il est allé voir des danseuses nues en se sentant libre de toute attache. Un autre évitant pourra choisir les salons de massage, qui sont une autre façon de vivre une sensualité passive sur le plan de l'interaction sociale. De son côté, le schizoïde, qui est un grand solitaire, est lui aussi un adepte du cybersexe anonyme et la prostitution lui sied bien puisqu'il peut se satisfaire sexuellement sans se compromettre avec une vraie amoureuse. D'ailleurs, les véritables schizoïdes, ceux qui ont beaucoup de traits schizoïdes, préfèrent vivre seuls et par conséquent, ils sont à l'aise dans le rôle de l'amant ou de la maîtresse. Armande a un amant en Europe. Et cela est bien suffisant pour elle, tandis que Julie se contente de peu de contact avec son amant, qui a peu de temps à lui consacrer parce qu'il est marié, qu'il travaille fort et qu'il a plusieurs enfants. Maintenant, pour l'obsessionnel compulsif, tout absorbé par les tâches pesantes de sa vie, l'infidélité est une toute autre histoire. Il y songe beaucoup avant de passer à l'action. Et lui, qui est torturé entre le bien et le mal, entretient un grand sentiment de culpabilité s'il passe à l'action. Ce genre de personne risque de tomber dans le syndrome du nid vide, ces mariages dépourvus de vitalité une fois que les enfants sont partis. Ce qui unissait le couple, c'était les enfants et la gestion de la famille. Par ailleurs, les obsessionnels compulsifs engendrent plus que d'autres des luttes de pouvoir dans leur couple, ce qui peut les rendre assez amers pour verser dans l'infidélité par dépit et vengeance. On retrouve souvent un homme obsessionnel compulsif en couple avec une histrionique. Celle-ci est renommée pour être infidèle et séductrice. L'infidélité est probable dans cette paire conjugale si les deux conjoints sont rigides dans leurs attitudes. Mais comme le comportement séducteur chronique de l'histrionique s'explique bien plus par son besoin excessif d'attention que par réel désir sexuel, elle peut simuler l'intérêt sexuel dans le but de se montrer intéressante. On rencontre parfois une femme histrionique accouplée avec un homme paranoïaque. France, par exemple, était sournoise et peu solidaire dans sa relation avec son mari paranoïaque. La relation était particulièrement houleuse, comme c'est typique dans cette paire de conjoints, car l'homme paranoïaque induit ce qu'il redoute le plus, c'est-à-dire l'envie de sa femme d'être infidèle pour le narguer et se venger. Attention à vous si votre conjoint est paranoïaque. Les paranoïaques, qu'ils soient hommes ou femmes, sont très jaloux et intolérants. Ils réagissent fort mal à la découverte d'une infidélité, pouvant devenir violents, du moins verbalement. Avec ces personnes, même les jeux inoffensifs de séduction doivent être évités. Les moindres signes subtils d'attraction sont détectés et font l'objet d'interrogatoires policiers. Vous n'avez même pas le droit de regarder des scènes d'amour à la télévision en ayant l'air d'aimer cela. De son côté, avec son plaisir malsain dans l'échec et le malheur, le passif agressif ne se gêne pas pour être infidèle quand il se croit lésé dans sa relation conjugale. Il se sent alors autorisé à équilibrer le pouvoir dans son couple via une infidélité, ce qui le fait jouir. Les passifs agressifs sont parmi les conjoints les plus difficiles à traiter, mais ils sont presque des anges en comparaison des antisociaux. L'antisocial fait sa propre loi. Avec lui, on est presque assuré de subir l'infidélité et il ne s'en sentira pas coupable. Ces hommes-là versent souvent dans l'hypersexualité avec dépendance sexuelle. Ils abusent d'ailleurs autant de leur conjointe que de leur victime sexuelle et amoureuse dans leur relation extraconjugale. Ils peuvent entretenir de multiples amours simultanément avec fierté. Malheureusement, ces hommes sont évidemment manipulateurs quand leurs infidélités sont découvertes. Ils sont d'autant plus difficiles à coincer qu'ils sont séducteurs avec leur sourire et leur charme, mais ils ne démontrent pas d'empathie pour autant envers les personnes qu'ils ont trahies. Ils manipulent les autres pour se sortir de l'impasse et ne comptez pas sur eux pour consulter un psychologue. Ce sera vous qui en aurez besoin, selon eux. N'oublions pas que quand on parle de personnalité antisociale, on parle de personnalité psychopathe. Certaines personnes confondent personnalité antisociale avec personnalité asociale. C'est pas le cas, là. Vous avez probablement compris d'après ce que j'ai dit. Et maintenant, par ailleurs, une recherche trouvée. Excusez-moi, je me reprends. Par ailleurs, une recherche a trouvé que les infidèles seraient plus extravertis et plus ouverts aux autres, mais moins consciencieux. Avec son style social plus actif, l'extraverti a plus d'opportunités de rencontrer des partenaires sexuels potentiels. Cette recherche a montré aussi que les infidèles vivant une grande incompatibilité dans leur couple. Excusez, je vais pas commencer à vous ennuyer avec mes mots déformés. Je reprends ma phrase. Cette recherche a montré aussi que les infidèles vivent une grande incompatibilité dans leur couple et qu'ils éprouvent une plus grande insatisfaction dans leur relation amoureuse. Ceci est cohérent avec notre conception de l'infidélité, ce sont les gens moins satisfaits qui sont les plus susceptibles de passer à l'acte. Dans une autre recherche, les infidèles étaient plus névrosés, moins aimables et moins consciencieux. Finalement, il est intéressant de voir des corrélations entre l'infidélité et les styles d'attachement. Les individus au style d'attachement confiant n'acceptent pas autant l'infidélité que les styles d'attachement non confiants. Ce seraient les individus qui se situent dans les styles d'attachement craintifs et préoccupés qui seraient les plus négligés dans leur relation amoureuse et qui deviendraient infidèles parce qu'ils sont frustrés. Il y aurait donc un lien clair entre les styles d'attachement anxieux et l'infidélité. L'obligation de garder l'accent sur son amoureux ou amoureuse est rentable globalement. Autrement, on s'éparpille et les conséquences peuvent être désastreuses. Celui qui est incapable de se sacrifier, celui qui est incapable de ce sacrifice réel et quotidien, peut plonger dans l'irréel de l'illusion. Parfois, l'infidélité peut être vue comme une espèce de psychose, en ce sens que l'individu perd contact avec la réalité. Quand la tentation se présente, Jonathan doit se poser la question suivante, deux points. Moi qui aimerais vivre ces beaux fantasmes sexuels qui m'excitent fort en ce moment, comment est-ce que je réagirais si Jessica, mon amoureuse, s'en permettait autant? D'habitude, si on aime notre amoureuse, on ne veut pas risquer de la perdre et donc on réagit mal à la simple idée de la voir dans les bras d'un concurrent. Si au contraire cela nous indiffère, il nous semble que ce n'est pas bon signe sur le degré d'amour que nous éprouvons envers elle. D'autant plus que la découverte de nos escapades peut assombrir l'esprit de la personne que nous chérissons tant. Selon nous, meilleure est notre santé mentale et plus nous valorisons les liens avec nos proches et surtout avec notre amoureuse ou notre amoureux. En conséquence, loin d'inquiéter celle-ci, on veut au contraire lui procurer une vie heureuse. Tout cela n'a rien à voir avec la morale religieuse de quelque religion que ce soit. Si Jonathan ne veut pas perdre Jessica, il va retenir ses envies de séduction et contenir ses désirs pour d'autres femmes. S'il l'aime vraiment, il va lui offrir une belle vie émotionnelle sans inquiétude. Ça, c'est de la gentillesse élémentaire. Alors, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et le prochain épisode sera intitulé Comment bien gérer la découverte d'une infidélité. C'était Psycho Balado avec Yves Dalpé, psychologue. Si vous désirez plus d'informations sur qui je suis, vous pouvez aller voir mon site internet à l'adresse suivante www.dalpecote.com et vous pourrez y voir que vous pourrez y découvrir mes divers livres que vous pourrez commander de différentes façons. Entre autres, La gentillesse dans le couple est disponible sur Amazon seulement. Là donc, on se laisse comme ça pour aujourd'hui, chers auditeurs de partout, et au plaisir de se retrouver dans 2 semaines.